Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de nous accueillir pour la 4e édition des matinales de l'économie. Je trouve qu'on a quand même traité pas mal de sujets en 4 ans, hein, sur comment construire la croissance de la France, maîtriser les dépenses publiques et quel avenir pour l'État-providence, vers une société plus juste et une économie plus forte. Et aujourd'hui, réfléchir sur quelle politique en matière de migration et quelle stratégie européenne. Je trouve que c'est un beau programme. Et en plus, je viens de découvrir que vous aviez déjà l'intuition des journées de l'économie 2016, puisque vous dites que nous allons vers un autre monde et que c'est bien le sujet, je crois, que nous devons traiter aujourd'hui. C'est un autre monde est là et il faut en prendre conscience. On va aller très vite. D'abord, en remettant ici les prix du livre d'économie de l'Association française de sciences économiques. Je pense que c'est un point important. Il y a 3 prix et je vais appeler tout de suite la présidente de l'Association française de sciences économiques, Kathleen Schubert, pour remettre le premier prix. Et on remettra le cadeau à la fin. Et moi, le deuxième. Eh oui.
Merci, Pascal. Donc je vais peut-être quand même dire un mot de 2 livres. Donc nous avons 3 prix, un prix dans la catégorie essai qui a été attribué à Daniel Cohen pour son ouvrage Le monde est clos et le désir infini. Donc Daniel n'est pas là. Je vais quand même peut-être dire un petit mot de ce livre pour vous inciter à le lire. Donc en fait, son idée c'est que la croissance est la religion du monde moderne. Nous sommes animés d'un désir infini, on veut toujours plus, mais l'humanité veut toujours plus, mais on est en train d'atteindre le bout, on est en train d'atteindre les limites physiques, à la fois de la planète et peut-être aussi de la technologie. Et donc si réellement on est en train d'atteindre les limites physiques de ce qu'on est capable de faire, si la croissance n'est plus vraiment possible dans le futur, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est un peu ça l'idée de son livre. Quelles sont les idées nouvelles? Qu'est-ce qu'on va devenir, par exemple, si à force de donner aux hommes des meilleurs outils par la technologie, au bout d'un moment, tout devient numérique et les hommes deviennent inutiles? Comment donc concevoir ce nouveau monde avec des humains qui sont à la fois animés de ce désir infini et puis le fait que le monde est clos et qu'on arrive au bout? Donc je ne vais pas vous spoiler, hein, comme disent mes enfants, je ne vous raconterai pas la réponse de Daniel Cohen à ces questions, mais je vous incite vivement à lire ce livre. Le deuxième livre, c'est l'économie des émotions, donc d'Emmanuel Petit, qui est ici, qui vous en dira un mot tout à l'heure. Donc là aussi, je veux juste vous en dire un tout petit mot. Vous faites des études d'économie, au moins pour les étudiants qui sont là, vous savez que l'homme, l'homo economicus, c'est un espèce de monstre rationnel qui passe son temps à faire des calculs. Okay, il maximise des choses, il a des contraintes, bon, il est très très froid. Dans le livre d'Emmanuel, on voit qu'en fait, non, les hommes ont aussi des émotions. Et qu'est-ce que l'économie est capable de faire avec ça? Si vous faites un peu d'introspection, vous vous dites, ok, quand je prends des décisions, en effet, c'est pas juste des calculs, les émotions ont une part importante. Et est-ce que les économistes sont capables de prendre en compte ces émotions? Est-ce que l'économie est capable de s'élargir sur ses marges, disons, en introduisant les apports de la psychologie, de l'expérimentation? C'est ça l'objet de ce livre. Alors j'ai appris beaucoup de choses, en particulier j'ai appris qu'il y a des émotions simples et des émotions compliquées. La colère, c'est une émotion simple. On voit bien la colère, ce que ça va nous faire faire dans nos prises de décision. Le bonheur aussi, c'est assez simple. Mais vous avez des émotions plus subtiles. Alors celles-là, comment elles vont nous faire modifier nos prises de décision, c'est pas du tout évident. Donc je vous incite aussi beaucoup à lire ce livre. Donc peut-être je vais laisser Emmanuel dire quelques mots, puis Pascal présentera le troisième ouvrage, qui est l'ouvrage de Robert Boyer, qui a eu également un prix dans la catégorie manuel. Donc Emmanuel, peut-être si tu veux. Donc voilà son livre.
Merci. Bon, je remercie vivement tous les membres du jury de m'avoir délivré ce prix. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Et puis c'est vraiment une belle occasion pour moi, effectivement, de parler de l'économie des émotions, la manière dont les économistes intègrent les émotions dans l'analyse. Parce que c'est intéressant, les économistes sont juste en train de prendre le train en marche des émotions que d'autres disciplines ont prises avant eux, que ce soit l'histoire, la philosophie, la sociologie et les neurosciences. Aujourd'hui, effectivement, on parle des neurones miroirs, on parle de l'intelligence émotionnelle, on parle en politique du rôle de la colère, de l'indignation, de la peur aussi. C'est des choses qui sont très très présentes. Et puis, c'est intéressant de voir que les économistes aussi vont s'y intéresser avec leur forme. Et je crois que l'enjeu est important pour l'économie parce que, à mon sens, l'économie des émotions ou l'introduction des émotions dans l'économie, ça peut conduire à l'économiste à revisiter un petit peu le cadre usuel qui est le sien de la rationalité, bien sûr, le logiciel de l'économiste usuel qu'il utilise depuis plus d'un siècle. Et à mon sens, les émotions peuvent revisiter l'analyse standard en revisitant deux hypothèses centrales pour l'économiste. Alors le premier, Kathleen Schubert en a parlé beaucoup déjà, c'est la question de la rationalité. Et c'est vrai effectivement que jusqu'à présent, on n'avait pas intégré les émotions dans l'analyse. Et l'introduction des émotions montre effectivement, avec beaucoup d'expérience, que les individus ne sont pas aussi rationnels qu'on a pu le penser. Et ça voudrait impliquer effectivement d'avoir un homo economicus qui soit peut-être un homo sensibilis, qui aurait une sensibilité et qui pourrait participer à la décision. Ce qui est important, c'est que la littérature sur les émotions nous dit l'émotion est partie prenante de la décision à côté de la raison. Elle est complémentaire en fin de compte et pas simplement à être exclue. Et puis la deuxième hypothèse fondamentale qui me paraît très importante, que l'émotion introduit aussi, c'est de revenir sur la motivation que l'on prête à l'individu. Les économistes considèrent que les individus sont toujours et presque uniquement à la recherche de leur intérêt personnel. En grosso modo, on pourrait dire qu'ils sont égoïstes. Et en fin de compte, les émotions, notamment les émotions sociales, comme la culpabilité, la honte, mais aussi la gratitude, l'empathie, nous montrent que les individus sont eux-mêmes capables d'avoir d'autres types de comportements, qu'on appelle des comportements prosociaux, hein, comme la générosité, la coopération, la confiance, et que c'est ces comportements-là qu'il faut aussi intégrer. Et donc, quand on regarde la cartographie le logiciel de l'économiste, hein, introduire à la fois une absence complète de rationalité et puis une capacité à regarder les comportements autres que purement rationnels, purement intéressés, eh bien, ça peut véritablement avoir une conséquence assez importante. Et notamment, c'est une dernière partie de l'ouvrage qui traite de ça, sur la manière dont le politique peut prendre en compte ces éléments. Parce que dans l'analyse économique, à partir du moment où vous considérez que les individus ne sont pas toujours rationnels et qu'ils sont aussi porteurs de valeurs, de comportements prosociaux, eh bien vous allez mobiliser des incitations, des structures incitatives ou éventuellement des règlements, des lois qui seront complètement différentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le paternalisme un peu libéral qu'on a vu un peu se mettre en place aux États-Unis. C'est porteur d'autre chose. Et puis peut-être une autre chose, c'est de dire, c'est une réflexion qui m'intéresse aujourd'hui, ça serait de dire quelles sont les émotions de demain. Comment les émotions peuvent véritablement avoir un impact sur la société. L'émotion du XXe siècle, pour l'économiste, ça va être quoi? Ça va être l'intérêt, en grande partie, la recherche de l'intérêt personnel, et puis aussi beaucoup l'envie. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se porter, ou éventuellement, est-ce que la société ne peut pas se porter davantage sur des émotions qui seraient des émotions positives, comme la joie, la gratitude, et éventuellement l'empathie? Peut-être, effectivement, que ça sera discuté, je ne sais pas, dans l'économie de la migration, parce qu'évidemment, ça peut aussi avoir un impact. Voilà, quelques mots pour résumer un petit peu ce que je voulais dire autour des émotions. Pour ma part, je suis vraiment ravi de ce prix. Le ravissement, c'est une belle émotion. Et encore une fois, je remercie le jury.
Donc, le troisième prix du livre d'économie de l'Association française de sciences économiques est un prix pour le manuel d'économie, et c'est à Robert Boyer pour Économie politique des capitalismes, paru à la collection Repère la découverte, avec une partie qui est ce qui sont les manuels. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir créé cette collection-là. Et pour moi, Robert Boyer est quand même quelqu'un de particulièrement important parce qu'il représente en fait une génération d'économistes qui sont à l'origine de, on peut dire, le renouveau de la recherche en sciences économiques en France. N'oubliez pas que jusqu'aux années 1960, la science économique française est plutôt en pleine déshérence. C'est dans les facultés de droit, c'est vraiment quelque chose qui disparaît de la scène internationale et il y a des économistes qui vont à ce moment-là jouer un rôle important. La science économique française, on en parle beaucoup avec Jean Tirole, avec Piketty, etc. Mais elle est vraiment renaît vraiment à ce moment-là. C'est d'ailleurs aussi à ce moment-là que se créent les sciences économiques et sociales, économie gestion. Je vois qu'il y a plein de lycéens. C'est exactement dans le même mouvement, à la fin des années 60, aussi que vont se créer ces nouveaux enseignements dans les lycées. Donc, Robert Boyer est un économiste de cette charnière et c'est d'abord un modélisateur. C'est un modélisateur et c'est assez amusant parce que c'est la seule poésie peut-être des économistes. Ce sont les noms des modèles. Je vous signale qu'à l'époque, les modèles, c'était Zogol, Descartes, Fifi et Robert Boyer, Star. Immédiatement, ça vous classe ce modèle. En fait, ça veut dire schéma théorique d'accumulation et de répartition. Donc, je pense qu'on est dans cette génération qui reconstruit cette science économique autour de la prévision. Et l'intérêt ici de l'ouvrage, bien évidemment, c'est de nous faire une synthèse assez incroyable de cette école de la régulation, c'est-à-dire une approche qui analyse les interactions entre l'histoire et la théorie, les cadres sociaux, les institutions, les régularités économiques, avec un concept central, celui de régime d'accumulation. Donc faire cette synthèse d'une école, je trouve que c'est déjà un travail intellectuel qui est considérable. Mais en plus, ce livre met au centre un certain nombre de questions qui sont en plein dans l'actualité. Hein. Si on regarde, ce sont des questions qui ont été redécouvertes par les économistes, surtout depuis une quinzaine d'années, puisqu'on voit que l'on parle des institutions, du rôle de la finance, de la dynamique des inégalités. Il y a un très beau chapitre sur la radiographie des capitalismes contemporains que je vous incite à lire, sur les processus multiformes de la mondialisation. Il y a là un regard sur la mondialisation aussi par rapport à des généralités que l'on peut lire qui étaient extrêmement intéressantes. La prise de pouvoir de la finance, il y a la critique aussi des théories économiques dominantes et du consensus académique. Je pense que c'est un débat qui est intéressant. L'ouvrage, c'est aussi une réponse pédagogique, c'est-à-dire avoir enfin une synthèse sur une pensée qui est foisonnante avec une marque de fabrique de Robert Boyer. La marque de fabrique de Robert Boyer, ce sont les schémas complexes. Si vous aimez les flèches qui partent dans tous les sens, vous n'avez pas besoin de partir au fin fond du Grand Ouest. Avec Robert Boyer, vous verrez les quatre formes du rapport salarial, les quatre systèmes d'innovation, les systèmes de politique économique. Enfin, c'est aussi un livre qui soulève des questions d'actualité brûlantes. Je vous signale quand même que ce livre s'interroge sur la capacité de l'État à mettre en œuvre des politiques issues des processus de délibération, sur la radicalité de l'innovation institutionnelle que représente l'euro, et sur les difficultés à réaliser des changements institutionnels. Et je pense que c'est la vraie question sur laquelle on avance le plus. Pourquoi c'est aussi difficile de faire des changements institutionnels ? Enfin, assez curieusement, j'ai découvert aussi que Robert Boyer était capable de vous expliquer le basculement des normes de qualité du vin et qu'entre les négociants et les producteurs, je me suis promené entre Beaune et Dijon et je ne m'y attendais absolument pas dans un ouvrage sur la régulation. Parfois, j'ai regretté qu'il n'y ait pas plus de chiffres. J'aime bien les chiffrophiles, un peu comme Angus Madison, et là, on aimerait bien avoir des données. Maintenant, il y avait un véritable défi, je voudrais bien savoir quelle est votre réponse. L'école de la régulation a-t-elle réussi à créer une alternative entre l'individualisme méthodologique et la méthode holiste? Est-ce que cette troisième voie existe? Robert Boyer, quelques mots?
Car je vais vous faire un aveu, j'ai pas du tout écrit ce livre pour avoir le prix de l'AFSE. Je l'ai écrit pour résumer 30 années de travaux de mes collègues, non seulement français mais internationaux. Donc c'était simplement rendre compte de 30 ans d'efforts. Et deuxième élément, c'est un événement rare. Je me rappelle, j'ai eu simplement deux prix dans ma vie. Le premier, c'est en 86. Prix du livre social, la flexibilité du travail en Europe. Ah, et de temps en temps, j'ai envie de demander à tous les acteurs sociaux de le lire, car il y avait une taxonomie des formes de flexibilité qui opposait la flexibilité défensive des salaires, des horaires, à la flexibilité offensive de la montée en qualification. Et donc, je suis très heureux de renouer avec cet élément-là. Ce livre, je vois trois... Alors, j'aurais aimé rendre intéressante l'économie. Parce que beaucoup de mes jeunes collègues vont dans les universités et trouvent que ça ressemble beaucoup à des mathématiques appliquées, au demeurant pas très rigoureuses. Et dans ce livre, j'essaie de faire trois choses. Patience du temps historique. Et ça, c'est un grand message aux politiques. Nous n'avons le droit de parler du contemporain que si nous avons compris pourquoi nous en sommes arrivés là. Et c'est une méthodologie. Avant de parler sur le présent, je dois rendre compte du passé. Deuxième élément, lorsqu'on examine un compte fiscal, l'euro, etc., on ne peut pas déconnecter l'économie des processus politiques. Et donc, le grand apport, c'est de voir comment les processus politiques et les processus socio-économiques se marient pour trouver des configurations qui changent au cours du temps. Troisième grand message, la théorie économique standard nous dit l'idée d'une one best way. Or, ce que nous trouvons, c'est une extraordinaire diversité des formes de capitalisme. Je range juste de la Chine. Je peux vous assurer que le capitalisme chinois ne ressemble pas à celui des États-Unis. Et c'est très important de comprendre parce que ça nous ouvre sur l'action politique. Dans le temps long, les processus historiques ont pu forger des configurations économiques extrêmement originales. Je vais terminer par un regret. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir l'âge, même été d'enseigner en première année ce livre, mais heureusement, j'ai de jeunes collègues très brillants. Et j'espère que mon livre durera quelques années pour éveiller à l'économie intéressante toute une nouvelle génération. Alors, pour répondre à votre question, la seule chose qui a manqué aux régulations, ce sont des interlocuteurs sociaux et politiques. Mais la théorie se porte plutôt bien et ne cesse d'avancer. Merci beaucoup pour votre prix.